Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jodère, le 3 mai 90.
essaie de comprendre comment j'atteins et je peux atteindre la vérité, les rouages et la structure de mon intelligence. Je ne suis plus au niveau existentiel face à Dieu, mais je suis au niveau de ma manière d'assimiler la réalité et ma manière de progresser dans cette connaissance de la vérité. Je ne suis plus au niveau existentiel, mais au niveau de l'intelligibilité en tant qu'elle est connue, en tant qu'elle est intelligente. La critique regardera qu'est-ce que c'est que le concept. Le jugement de sagesse ne regarde pas qu'est-ce que c'est que le concept. Puisque c'est par le concept que je peux arriver à la connaissance du réel. Vous voyez, les moyens par lesquels je peux atteindre le réel. Voilà ce que regarde la critique. La structure de mon intelligence, l'abstraction, la diversité de mes opérations intellectuelles. Alors, évidemment, tout ça est contenu dans le jugement de sagesse. Mais ce n'est pas le jugement de sagesse. Est-ce que vous voyez bien ça? Si vous ne voyez pas, dites-le. Parce que c'est... Quelle différence avec ? Et la philosophie du vivant regarde le vivant. Vous voyez, c'est toujours des aspects différents sur la même réalité. Mais formellement, c'est différent. Quand je fais la philosophie du vivant, j'essaie de comprendre ce qu'est l'opération vitale de l'esprit. Et j'essaie de me placer du côté de l'opération vitale, donc de l'immanence de cette opération vitale. Quand je me place dans le jugement de sagesse, ayant atteint le sommet de ma recherche philosophique, Dieu, la pensée de la pensée, Dieu, la contemplation de la contemplation, dans cette lumière-là, je regarde mon devenir intellectuel. C'est très différent, mais c'est toujours quand même l'intelligence. Mais dans la lumière de la contemplation divine. Et en critique, j'essaie de comprendre toujours le hiatus qui existe entre l'intentionnalité et le réel existant. La critique, elle se place du côté de l'intentionnalité. Et de l'intentionnalité en tant que vécu, en tant que connu. C'est pour ça que la critique est tout proche, vous voyez, d'une attitude très moderne. L'attitude moderne vient de la critique de Kant, il ne faut pas l'oublier. C'est Kant qui est responsable de la phénoménologie. Ça, c'est à partir de Kant. Et tant qu'on n'a pas dépassé la phénoménologie, on reste kantien. Radicalement. C'est pour ça que Kant est Descartes. Puisqu'avant Kant, il y a Descartes. Et il y a une continuité. Le primat de l'idée. Eh bien, la critique montre que l'idée n'est jamais première. confusion entre l'intelligé et le réel. Et c'est d'identifier les deux. Ce que Kant a très bien compris. Et ça peut être la solution aussi. Kant a critiqué, il n'a pas donné de solution. Alors comme il n'a pas donné de solution, on a continué de regarder l'intelligé comme tout. La seule chose intéressante, c'est ce qu'est le vécu. Oui, c'est très important de dire le vécu, c'est ce qu'il y a d'important dans la vie. Mais c'est pas ça qui me conduit à la contemplation. Regardez votre vécu, vous n'aboutirez jamais à la contemplation. Celui qui se regarde tout le temps lui-même n'aboutit jamais à la contemplation. Celui qui regarde toujours ce que c'est qu'aimer sans aimer, jamais. Oui. Il réfléchit sur son conditionnement. Il réfléchit sur la manière dont il atteint les choses. Et n'atteint pas la réalité. Et ça, on voit très bien la fragilité de notre monde d'aujourd'hui qui réfléchit sur le vécu et qui n'atteint plus le réel. Ça, Descartes et Kant. Oui. Quand Descartes dit qu'il faut d'abord regarder la signification des idées avant de voir si elles existent, c'est exactement ça. Regardez la signification des choses de vécu. Et la psychologie, vous voyez, nous enferme dans ce vécu. Tâtez-vous le pouls. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est pas ça l'intéressant. Qu'est-ce que vous avez rencontré dans votre vie? Qui avez-vous rencontré? Est-ce que c'est intéressant de voir la manière dont vous avez réagi en face d'une personne ou de regarder la personne elle-même? Si vous regardez uniquement la manière dont vous avez réagi, très bien, et vous vous enfermez en vous-même. Tandis qu'au contraire, si vous comprenez, c'est évident, j'ai réagi comme ça, ce qui m'intéresse, c'est cette personne que j'ai rencontrée, c'est de savoir qui elle est. Regarde l'intelligible en tant qu'il est intelligé, le vécu. Est-ce que vous voyez ça? La différence entre philosophie première, théologie naturelle, jugement de sagesse et critique. Des distinctions qui ne se font absolument plus aujourd'hui, depuis Descartes. Et c'est ça l'idéalisme. On vit dans un idéalisme. Dès qu'on a un souci de saisir la réalité, on fait tout de suite la distinction. Ce qui m'intéresse, c'est de saisir la réalité. Alors vous voyez, quand je vis cela et que j'applique ça à ma foi, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de foi. Puisque la foi, c'est essentiellement être face à Dieu et au mystère. Et ce que je vis du mystère n'est pas le mystère. Ce que l'exégèse vous dit du conditionnement de la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. C'est terrible. Mais au fond, on s'enferme dans cette prison du vécu. Et alors on n'a plus la contemplation. C'est pour ça que la contemplation devient quelque chose de si rare dans notre monde d'aujourd'hui. On rumine, on est des ruminants, avec diverses poches d'estomac. Là, ça passe de l'un à l'autre, l'acide, la joie, la tristesse, c'est ça. Et au fond, notre journée est faite de joie, de tristesse, d'insomnie, de sommeil. Et c'est la seule chose qu'on regarde. Mais non. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la finalité de votre vie? Vers quoi vous tendez? Donc j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est capital de bien distinguer les deux. Alors, autre question. Vous avez dit, alors ça, on entre dans la critique ici maintenant. on entre dans la critique. Et on est dans la critique. Vous avez dit que l'abstraction permet de découvrir. Et de garder l'analogie. À la différence de la dialectique. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'abstraction ne conduit-elle pas à une connaissance univoque? Très bien, on va essayer d'expliquer ça. Alors je me replace dans le problème critique. J'avais dit la dernière fois que dès que nous réfléchissons sur notre vie intellectuelle, nous apercevons de la diversité de nos jugements. Un jugement affectif n'est pas un jugement artistique, esthétique. Que le jugement philosophique, au niveau métaphysique, n'est pas le même qu'un jugement pratique. Quand vous regardez un navet, avant de le cuire, vous dites d'un navet, vous regardez s'il est bien, s'il n'est pas pourri. Parce que si vous mettez à cuire un navet pourri, hein, les estomacs de tous en pâtiront. Et donc faites attention de ne pas prendre des légumes abîmés. Vous avez un petit jugement pratique. Il y en a qui n'arrivent pas à discerner. Non, on ne voit pas. Alors, ils cuisent n'importe quoi. Dans la tambouille, ça fait la tambouille. Une fois que c'est cuit, on ne voit plus. Puis tout d'un coup, les gens sont malades. À cause de quoi? Ben oui, il y avait quelque chose dedans qui était bon. Voilà. Mais jugement pratique quand même, on fait ça tout le temps. Le jugement, c'est le discernement. On discerne les brebis et les boucs. On fait un discernement. Le bon et le mauvais. Le discernement pratique, le discernement spéculatif, le jugement affectif. Oh, il y a des frères, merveilles, s'ils étaient tous comme ça. La vie commune serait le ciel, l'antichambre. Mais pourquoi t'on a mis ces frères qui sont vraiment des brebis galeuses? Les supérieurs n'ont pas vu. C'est vrai, ils n'ont pas compris, il fallait surtout pas mettre des brebis galeuses à côté des... Et Jésus qui nous dit qu'il faut pas enlever trop vite le mauvais grain avec le bon grain. Et Jésus qui a choisi parmi ses disciples une brebis galeuse. Il nous en donne ça l'exemple. Il ne faut pas exprès choisir des brebis galeuses, hein. Jusqu'où les brebis bonnes resteront bonnes. Alors, mettre une galeuse tous les 12. 12. 12. Dans un noviciat de 25, un 2. Hein, regardez-les. Alors, Pierre, il essaie de comprendre où est-ce qu'il est. Il viendra à ce moment-là avec l'épée, il la met en dehors. Hein. Et le permettre, bon, dit non, attends. C'est extraordinaire quand on sait regarder l'évangile, quand on regarde comment Jésus, qui lui savait, il a choisi Judas. C'est une erreur politique monstrueuse. Si Hegel avait été là, il n'aurait pas fait cette erreur. Ça, c'est sûr. L'intelligence hegélienne est bien supérieure à la science infuse du Christ. C'est quand même très curieux tout ça, il faut regarder toutes ces choses-là pour qu'on les comprenne. Et qu'elle ne supporte pas l'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il ne peut pas y avoir d'erreur. La dialectique ne supporte pas l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est le système. On absorbe. Alors, comprenons la diversité des jugements. Excellent. premier jugement, le jugement le plus radical, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Il est présent dans tous les autres jugements. Sauf sur les jugements hypothétiques. Mais il est encore présent. Ceci peut arriver. Demain, il peut pleuvoir. Il peut. C'est pas un jugement d'existence. C'est hypothétique. Il est possible que demain, il pleuve. Il est possible que ce soir, il y ait un orage. Il y a des petits nuages qui montent. Il est possible que... Oui, le jugement d'existence n'est pas présent. Il est mis entre parenthèses. Il est possible. Mettre entre parenthèses le jugement d'existence, c'est mettre en pleine lumière le possible. Tout de suite. Donc, voyez, le jugement d'existence est quand même présent. Mais il est mis entre parenthèses. C'est la brebis galeuse. Le jugement d'existence est la brebis galeuse parce qu'elle m'empêche de voir le possible. Elle m'empêche de voir le possible dans toute sa force. C'est toute la fémulogie, ça. Pourquoi ? Parce que l'idée est du domaine du possible. L'idée n'existe pas. Or, c'est l'idée qu'il faut voir. Ou l'idée, hein, c'est encore mieux. Le possible. C'est reconnaître le jugement d'existence. Et reconnaître que le jugement d'existence est très, très gênant. Et quand vous mettez en quarantaine un frère, c'est qu'il est très, très gênant. Il vaut mieux le mettre entre parenthèses. Vous ne le faites pas par charité fraternelle. La charité fraternelle vous empêche de... Mais spéculativement, on peut mettre entre parenthèses le jugement d'existence. Mettre entre parenthèses en disant c'est faire apparaître le possible. Bon. Le jugement d'existence, c'est le premier jugement, le plus simple. Oui, toujours la critique cherche l'élémentaire. Je vous l'ai dit au début. On cherche ce qu'il y a d'élémentaire. Parce que ce qui est élémentaire est présent partout. C'est propre de l'élément. Il est présent dans toutes les mixtures. Je ne vais pas commencer ma critique sur le jugement par le jugement affectif. Mais non, c'est beaucoup trop complexe. Ce frère est une merveille. Jugement affectif. Pierre, c'est merveilleux. Si tous étaient comme ça, justement, tous ne sont pas comme ça. Donc, il n'est pas présent dans tous. Le jugement affectif n'est pas présent dans tous. Je cherche le jugement le plus élémentaire, le plus simple, présent dans tous les autres jugements. Ceci est. Que j'écarte exprès pour faire apparaître le jugement le plus opposé, il est possible. Vous voyez, et la philosophie contemporaine me montre négativement que le jugement d'existence est premier, qu'il est fondamental, puisqu'il faut le mettre entre parenthèses pour qu'apparaisse le possible. Et toute la philosophie moderne, c'est une philosophie du possible. C'est dans ce sens-là qu'elle est idéaliste. Parce que si vous philosophez sur le possible, au bout d'un certain temps, vous ne regardez plus le réel. Et vous prenez le possible pour le réel. Ne voyant plus que le possible. Et évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Parce qu'on ne se casse jamais le nez sur le possible. Le possible, je possède en moi. Tandis que ce qui est extrinsèque à moi. Ramener tout l'élément le plus simple, le plus élémentaire, mais fondamental. Ceci est. Je vais maintenant me poser la question, est-ce que le jugement d'existence, ceci est premier dans ma vie intellectuelle? Je dis qu'il est élémentaire comme jugement. Alors, est-ce que le jugement, est-ce qu'il est premier dans ma vie intellectuelle? Aristote, j'ai le droit de le citer. En critique, j'ai le droit de citer tous les auteurs. Ce sont des opinions. Aristote dit que le jugement n'est pas premier. Mais c'est le propre d'Aristote. Il dit ça face à Platon. Il fait une division que Platon ne fait pas. Tant qu'on est en face de quelque chose de divisible, on n'est jamais en face de quelque chose de premier. Puisqu'il peut être divisé, donc il n'est pas premier. L'apanage du premier, c'est qu'il est indivisible. Vous êtes premier là où vous êtes indivisible. Alors cherchez en vous ce qui est indivisible pour comprendre ce qu'est le premier. Et vous verrez que tout en vous est divisible. Tant que vous n'êtes jamais premier. Tant pis tant. Ça, c'est un sacré coup pour l'orgueil. Parce que l'orgueilleux veut être premier. Être maire d'un village. Le plus petit village, ça n'a pas d'importance. On est maire. On est le premier. Petit président de la République. De ce petit village. Même s'il est tout petit. On va être premier. Et l'apanage du premier, c'est d'être indivisible. Le second est toujours relatif au premier. Donc il est toujours second. Il est relatif. Il est compliqué. Il est complexe. Et du complexe au compliqué, il n'y a qu'un pas à faire. Je crois que le compliqué, c'est celui qui n'accepte pas d'être complexe. Celui qui accepte d'être complexe, d'être second, ben oui, il est et il est relatif. Il y a deux choses en lui. Alors, est-ce que le jugement est premier dans ma vie intellectuelle? Eh bien, non. Le jugement est second. Alors, je vais essayer de le comprendre. Ça, c'est important. Il y a quelque chose d'avant le jugement et de plus élémentaire que le jugement dans ma vie intellectuelle. Et le propre de la critique, c'est de le mettre en pleine lumière. Le langage me le montre. Je vois tout de suite, ceci est, ceci n'est pas. Il y a affirmation et négation. Oh, s'il y a affirmation et négation, ça prouve que le jugement n'est pas simple. L'intelligence de Dieu est simple, elle n'est qu'affirmative. Mon intelligence, mon affirmation dans le jugement d'existence, ceci est, n'est pas simple, puisque je peux dire ceci est, ceci n'est pas. Et ça, Hegel a été très impressionné par ça. Il a saisi que c'était la première conclusion. La dialectique commence par la complexité. Elle cherche la simplicité, mais par la complexité, alors elle ne l'atteint jamais. Oui, c'est là tout de suite la différence, hein, le regard différent c'est le chemin le plus simple. Parce que ceci n'est pas plus complexe que ceci est. Puisqu'il y a la négation qui s'ajoute. La négation, c'est quelque chose qui s'ajoute. ne veut plus se soumettre au réel et qui veut avoir son autonomie parfaite. Or, la négation, c'est ça. Regardez la négation affective du gosse. À ce point-là, les enfants nous enseignent des tas de choses. Quand le gosse est dans sa phase négative, vous vous approchez de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tourne le dos. Il s'enfuit à toute vitesse. Puis il se met à crier en même temps. Ce qu'il ne veut pas. Et la mère est là, mais non, dis bonjour. Mais non, pas du tout. Et plus la mère dit bonjour, plus il s'enferme, plus il surtout, il se cache. Auprès de sa mère. C'est très curieux, ça. Alors, ça, on le voit très bien, le primat affectif de la négation. Mais il y a un primat intellectuel de la négation. On l'érige comme la loi fondamentale de l'intelligence. Or, le primat de la négation ne peut exister que lorsque on cherche ce qui est antérieur au jugement d'existence. Alors, vous allez voir tout de suite, ce jugement d'existence, je dis, il n'est pas premier. Le signe, c'est que le langage, nom et verbe, deux manières de chercher ce qui est avant l'affirmation, la négation, l'appréhension. ceci à quelque chose, et quelque chose qui vient le qualifier. Mon intelligence est donc capable d'unir une certaine diversité. La diversité du ceci. Ça se fait ça. C'est parce que mon intelligence atteint la réalité à travers mes sensations. Quand je dis ceci existe, c'est mon intelligence liée au toucher. Mon intelligence est liée à la vue. On peut dire aussi ceci existe. Il y a un certain toucher même. Le soleil existe, la lune existe, les étoiles existent, et puis ceci existe, et puis moi j'existe, et puis à côté de moi il y a quelqu'un aussi qui existe, et puis il y a un petit chien à côté, il faut le toucher, et tant que vous ne l'avez pas touché, vous ne pouvez pas dire absolument que ça existe, parce qu'il peut y avoir un petit chien artificiel qui de temps en temps aboie, et vous ne savez pas très bien si ça existe, ou si c'est un objet d'art, mais cet objet d'art existe. Donc, vous arrivez toujours à retrouver l'existence, même si vous vous trompez. Vous croyez que c'est un chien vivant? Non, non, c'est un chien. On a remonté le mécanisme. Et les poils tellement proches, vous vous trompez comme Isaïe. Comme, je veux dire, comme Isaac se trompe par rapport à Esaü. On se trompe tout le temps, on touche, on croit. Mais il existe quand même. Votre connaissance. Intelligent avant l'examen, mais après l'examen,